Chapitre 3. L'air sentait le soin. Sitôt la trappe de fuselage déverrouillée, Lisa fut submergée par cette odeur puissante et lourde, animale. C'était comme une haleine épaisse montant du sol, une sorte de brume grasse qui mettait sur la langue un goût de sel et d'acide acétique. Ainsi cramponnée au bord du vide, la jeune femme eut l'impression d'hésiter au seuil de la chambre à coucher d'un dormeur colossal, un être de légende muré dans un sommeil aussi lourd que son émanation sui generis. Et elle frissonna. L'appareil ne volait pas assez haut pour qu'elle puisse embrasser d'un seul regard la silhouette de l'animal dans sa totalité. Elle ne voyait qu'un territoire rose et nu, que bordaient des prairies brunes clairsemées. Des vallonnements, des collines molles qu'agitaient parfois un spasme nerveux ou une contraction musculaire. Elle songea. Mon Dieu, une mouche qui se pose sur la poitrine d'un homme ne doit pas apercevoir autre chose. Je suis en train de devenir une mouche. Le largueur lui tapa sèchement sur l'épaule. Elle voulut dire quelque chose, mais le vent vola ses paroles. Pour se donner une contenance, elle vérifia une nouvelle fois les attaches du harnais. La grosse boule du parachute pendant sur son ventre lui donnait la sensation d'être une petite fille qui joue à la femme enceinte en glissant un coussin sous sa robe. Elle ferma les yeux et sauta. Curieusement, elle n'avait pas froid. Sa chute s'effectuait au milieu d'une brume moite. Une buée au relent des tables ou de chambrée. Une de ces bouffées d'intimité négligée qu'on surprend dans les vestiaires, les dortoirs ou les douches. Il lui semblait qu'elle tombait depuis des siècles quand une secousse effroyable la fit remonter de plusieurs mètres. Les épaules à vif, elle regarda la corolle blanche du parachute qui se gonflait maintenant au-dessus de sa tête comme une fleur aux pétales fragiles. Sous ses pieds, la plaine se rapprochait à une vitesse terrifiante. Une plaine d'un beau rose uni, sans l'ombre d'un roc, d'un caillou, d'un arbre. Une surface irréelle qu'on devinait déjà un peu grasse. Lisa se ramassa sur elle-même, prête au choc. Elle eut parfaitement conscience de heurter le sol, puis de rebondir, pour aller rouler quelques mètres plus loin et s'emmêler dans les suspentes. Sous ses mains, la terre était chaude, curieusement élastique, un peu moite. Elle s'agenouilla, se débarrassa du harnachement ainsi que de la combinaison de vol. La température évoquait l'atmosphère lourde d'une serre. Lisa décida de ne conserver pour tout vêtement qu'un t-shirt brun de l'armée et un slip réglementaire. Elle s'assit sur la boule froissée du parachute, épongea son front et ses aisselles. La faible teneur en oxygène faisait monter des bourdonnements dans ses oreilles. Elle déglutit à plusieurs reprises, retroussa son tricot de corps pour se comprimer le plexus et chassa la vague d'angoisse qui s'emparait d'elle. Lorsque la sensation d'étranglement eut disparu, elle nota avec amusement qu'un large hématome marquait la plaine à l'endroit où elle avait touché le sol quelques instants plus tôt. Elle se leva, posa son pied nu sur la chair souple, l'en redécolla avec un léger bruit de succion. La meurtrissure virait déjà au violet. Un peu plus loin, elle aperçut ce qu'elle prit d'abord pour des coquelicots et qui se révéla n'être qu'un semis de grains de beauté agrémenté de quelques verrues étrangement rouges. Elle eut un sursaut de dégoût qu'elle s'efforça de réprimer et reporta son regard sur l'horizon. À la plaine nue succédait une prairie de duvet brun, d'abord clairsemée puis rapidement très fournie. Au loin, on devinait une jungle touffue, probablement constituée par la broussaille d'une toison ou d'un pelage. Elle se rappela les recommandations du commandant. Jamais de feu en bas. Pas d'armes non plus, ni d'explosifs. Rien qui puisse intentionnellement ou accidentellement endommager la bête. Lisa suivrait ses consignes. Son havresac ne contenait qu'un paquet de rations survie, un nécessaire de prélèvement et son micro-analyseur, un tube de pastilles hydratantes contre la soif, des jumelles, ni pistolet ni grenade. Elle fit quelques pas, serra les dents. Il était impossible d'oublier qu'on marchait sur un être vivant. La mollesse du sol, le réseau bleu des vénules qu'on voyait affleurer par endroits, ces effluves de transpiration, le tressaillement furtif du gigantesque épiderme agacé par les talons de l'intruse, tout contribuait à vous faire prendre conscience qu'un abîme d'entrailles vivait sous vos pieds. Une masse de viscères défiant l'imagination, des milliers de kilomètres d'intestins, de veines, d'artères, de fleuves, de sang, tour à tour engloutis et pulsés par un cœur aux dimensions de centrales électriques. Une véritable planète de chair vive, un astre organique ramassé sur lui-même, palpitant et grouillant. Un territoire vivant, un relief, un paysage, qu'un choc suffisait à marbrer d'une ecchymose. Lisa s'agenouilla. La tête lui tournait, le vertige s'emparait d'elle. Il lui semblait voir le tunnel prodigieux d'une aorte assez large pour livrer passage à une locomotive. La caverne d'un estomac assez vaste pour contenir une ville de province avec sa banlieue. Elle lutta pour se ressaisir. Une mauvaise sueur glaçait la trempait tout entière. Ce n'était ni le moment ni l'heure de succomber à une crise d'agoraphobie. Elle s'allongea sur le parachute, mais la transpiration de la bête en avait déjà traversé l'étoffe. Elle se redressa d'un coup de rein, attira le sac sur ses genoux et s'obligea à manger. À 100 mètres d'elle, une crispation musculaire ébranla la plaine qui se couvrit de chair de poule. En une seconde, la surface rose et lisse se hérissa de nodules grumeleux, turgescents, durs comme des cailloux. Vaguement inquiète, la jeune femme rassembla son paquetage, l'assura sur ses épaules et s'éloigna de la meurtrissure. De toute manière, il n'était pas question qu'elle s'éternisât au même endroit. Si elle voulait faire sa jonction avec l'équipe des permanents, elle devait se mettre en marche sans retard. Elle prit la direction d'une proéminence aux allures de mamelle et s'appliqua à discipliner son souffle. La faible teneur en oxygène la contraignit toutefois à ralentir son allure au bout d'une dizaine de minutes, et c'est au bord de la syncope qu'elle atteignit le sommet du mamelon. Malgré le fort pouvoir grossissant de ses jumelles, elle ne put déceler la moindre trace de vie aux alentours. La forêt broussailleuse du pelage recouvrait tout, comme une jungle impénétrable. Avec une certaine appréhension, elle comprit qu'elle ne pourrait éviter de s'y enfoncer. Dès qu'elle eut atteint la lisière de la toison, l'odeur de soin devint pratiquement insupportable. Chaque poil avait l'épaisseur d'un gros bambou et se dressait jusqu'à une hauteur de 3 ou 4 mètres pour retomber ensuite mollement à la manière de ces herbes aquatiques qui bordent les étangs. Lisa eut tout de suite l'impression de s'être égarée dans le labyrinthe glauque d'une rizière. Plus que partout ailleurs, les glandes sébacées enfouies sous la peau sécrétaient d'abondance, et le sol était entièrement recouvert d'une boue grasse et rance où le pied plongeait avec un bruit obscène de ventouse. La jeune femme dut surmonter sa répugnance pour se couler entre les troncs. La pilosité, inégalement répartie, passait indifféremment du touffu au clairsemé. Si à certains endroits il était aussi facile de traverser le pelage que de se promener dans une forêt, à d'autres, les bambous tissaient un fouillis inextricable de poils emmêlés qu'on ne pouvait dépasser qu'à 4 pattes, voire même en rampant. La jeune femme fut très vite enduite de graisse de la tête aux pieds. Ses vêtements et son sac, eux, donnaient l'impression d'avoir séjourné dans une jarre d'huile d'olive pendant un bon mois. À plusieurs reprises, elle tenta de se redresser, patina et s'étala de tout son long dans une flaque de sébum. Maintenant, elle en avait le goût rance sur les lèvres et dans la bouche. Son estomac se révolta et elle crut un instant qu'elle allait vomir l'intégralité des repas avalés au cours des 15 derniers jours. Alors qu'elle luttait contre la nausée, un bruit frappa ses oreilles. C'était le clapotis caractéristique d'une troupe en marche, d'un groupe d'une dizaine d'individus qui venaient droit dans sa direction. Son premier mouvement fut de signaler sa présence par un appel, mais, à la seconde même où elle ouvrait la bouche, une crainte obscure, informulée, la dissuada de poursuivre dans cette voie. Des années de contact avec les animaux lui avaient appris à respecter les avertissements flous de l'instinct. Au lieu de courir au-devant des marcheurs, elle se glissa à plat ventre sous un buisson de poils apparemment aussi impénétrable qu'un buisson de ronces. Ramassée sur elle-même, le menton dans la graisse, elle écarquilla les yeux, attendant avec angoisse l'instant où les inconnus passeraient tout près d'elle. Ils émergèrent subitement d'entre les bambous et s'arrêtèrent au centre d'une petite clairière pour parler à mi-voix. Elle dénombra 7 hommes et 4 femmes, dont les âges s'échelonnaient entre 30 et 50 ans. Ils étaient tous nus, luisants de soin. Leurs cheveux longs pendaient sur leurs épaules en mèches grasses, pareilles à des lanières de cuir. Les hommes arboraient une barbe hirsute et suiffée, ainsi que des ongles taillés en pointe. Si l'un d'entre eux n'avait pas porté de fines lunettes à monture dorée, Lisa eût été convaincue de se trouver en présence d'une bande de primitifs en maraude. Son malaise n'en fut qu'aggravé et elle décida d'observer une prudente réserve. Là-bas, le conciliabule venait de prendre fin. La petite troupe se disposa en cercle. Lisa remarqua soudain que plusieurs hommes remorquaient de longs paquets oblongs aux allures de linceul. Elle ne se trompait pas. Les draps dénoués et roulés laissèrent apparaître les corps de 3 jeunes gens constellés de blessures. Les plaies profondes qui marquaient leurs torses semblaient l'œuvre d'armes de jet archaïques, haches ou sagaies. L'homme nu, aux lunettes dorées, égrena une brève prière, nuque penchée, main croisée à quelques centimètres au-dessus de son pénis. Les autres l'imitèrent. Ils avaient tous l'air fourbus et inquiets. On sentait chez certains le désir à peine refoulé d'abréger la cérémonie des funérailles pour reprendre la course au plus vite. Enfin, l'une des femmes fouilla dans son sac, en tira une sorte de couteau primitif constitué par une omoplate dont l'une des arêtes avait été aiguisée. Ce tranchoir improvisé en main, elle s'agenouilla au centre de la clairière et creusa 3 longs balafres dans le sol. Lisa eut un sursaut qui faillit la trahir. Depuis le départ, on lui avait seriné que toute agression envers l'animal était strictement prohibée. Et voilà qu'à quelques mètres de sa cachette, on taillait dans l'épiderme de la bête comme dans n'importe quel vieux cuir. Elle se mordit la lèvre, tandis que son angoisse montait d'un cran. Là-bas, la femme peinait pour fendre profondément la couche cornée. Les 3 estafilades donnèrent bientôt naissance à 3 plaies béantes parallèles d'environ 2 mètres chacune. Le tissu adipeux en se fendant laissait apparaître un abîme gélatineux et jaune que sillonnaient quelques rares vaisseaux sanguins. Il n'y avait pas d'hémorragie, juste un vague suintement dû à la lymphe. Sans s'attarder, les fuyards saisirent les cadavres par les mains, les pieds et les déposèrent chacun dans leurs fosses respectives. Les pupilles dilatées par la surprise, Lisa regarda ces morts qu'on glissait le plus naturellement du monde entre les lèvres d'une plaie géante et elle se demanda si elle était toujours bien éveillée. La fossoyeuse rangea méticuleusement le tranchoir dans le sac et s'empara d'une grosse aiguille d'os qu'un fil à la texture artisanale reliait à une bobine de bois. À genoux, au-dessus de la première sépulture, elle entreprit aussitôt de recoudre la plaie ouverte un instant plus tôt. L'homme lunette vint l'aider à tirer sur le filin tenant lieu de catgut. Peu à peu, les 2 rives de l'entaille se rapprochèrent. La femme procédait méthodiquement avec une grande sûreté. L'aiguille plongeait, ressortait dans un chointement mouillé, le ravin graisseux se refermait, engloutissant le cadavre dans sa niche spongieuse. Rapidement, il n'y eut plus qu'une grosse boursouflure striée par le zigzag du câble suiffé. Lorsque les 3 tombes furent recousues, l'homme aux lunettes prononça une dernière prière, et la petite troupe se remit en marche comme si une meute invisible reniflait ses talons. Lisa attendit 10 minutes avant d'émerger de son abri. Elle était abasourdie. Prudemment, comme si elle redoutait d'entraver le processus de cicatrisation, elle s'approcha des plaies. Une légère sérosité perlait entre les fils, un peu de sang aussi, mais très dilué. Elle songea aux morts qu'on venait d'implanter sous l'épiderme de l'animal, et un léger vertige la saisit. Faute de terre, les colons ensevelissaient leurs défunts entre les lèvres d'une plaie géante. La coutume avait quelque chose de magique et de terrifiant tout à la fois. Elle se demanda combien de cimetières de cicatrices elle allait croiser sur son chemin. Le délabrement physique et la peur manifeste des fuyards l'inquiétaient davantage. De plus, les trois jeunes gens qu'on avait curieusement mis au tombeau avaient bel et bien péri de mort violente. Elle se rappelait parfaitement la configuration des blessures, toutes situées dans des zones vitales et probablement infligées avec la volonté bien arrêtée de causer un préjudice extrême. Quelque chose d'angoissant et de frelaté flottait dans l'air. Elle décida de reprendre sa course sans tarder. Si un quelconque danger courait dans le village des fuyards, elle risquait fort, tôt ou tard, d'en être aussi la victime. La peur diffuse qui irradiait à travers sa poitrine avait chassé l'écœurement du premier contact avec la bête. À présent, la graisse, le bourbier de sébum et l'odeur de semain lui semblaient de peu d'importance. Elle pressa le pas, faisant naître d'impressionnants clapoutis au sein de la rizière de poils. Elle songea qu'elle avait peut-être eu tort de se cacher. En fuyant le contact, elle avait perdu l'occasion rêvée d'effectuer une jonction rapide. Oui, peut-être, mais elle n'en était pas vraiment certaine. Comment les autres l'auraient-ils accueillie? Et ces armes d'os taillées qu'elle avait entrevues dans la musette de celui qui semblait faire office de chef? Des tibias aiguisés comme des pieux, des omoplates au fil tranchant. Tout un arsenal d'ossements dont la provenance ne pouvait qu'être humaine, puisqu'aucun animal ne vivait sur l'animal. L'image des trois balafres revint la hanter. Elle n'arrivait pas à détacher son esprit des corps couchés dans leur linceul de graisse. Combien de temps avant que les cellules chargées de la défense du gigantesque organisme ne partent à l'attaque, dissociant les intrus comme n'importe quelle particule étrangère? Il y aurait probablement une inflammation, un peu de pus autour des sutures, puis, une fois les trois cadavres dissous, la régénérescence ferait son œuvre. Les fils tomberaient, il ne resterait plus des trois assassinés qu'une triple cicatrice à peine discernable dans la broussaille d'une toison huileuse. Elle soupira. Depuis plus d'une heure, Lisa avançait de façon parfaitement somnambulique. Engourdie par la fatigue, son corps fonctionnait aveuglément, à la manière d'une machine dont le conducteur s'est assoupi et qui continue sa route au hasard des chaos, dont les secousses font peu à peu dévier la trajectoire vers l'inconnu. Le premier appel ricocha sur le cerveau de la jeune femme sans parvenir à allumer l'intérêt du moindre neurone. Il fallut 3 ou 4 réitérations pour que ses paupières clignent et qu'une lueur d'intelligence envahisse ses pupilles. Elle s'immobilisa, glacée. Un autre appel fusa, tout proche, à la fois indistinct et rassurant. Elle comprit que quelqu'un essayait de la mettre en confiance. Un piège ? Elle hésita sur la conduite à tenir, attendre ou d'étaler. Une ombre se faufila dans la forêt des poils dressés. Un jeune homme, nu comme les autres et pareillement luisant de graisse. Ses cheveux blonds bouclés lui faisait une auréole poisseuse. Il était maigre, d'une musculature nerveuse toute sillonnée de veines et de tendons. Une plaque d'identité militaire se balançait sur son sternum. Un sac à dos distendu lui faisait courber la nuque. Il s'avança, les mains levées, paume ouverte. « N'ayez pas peur, » fit-il d'une voix calme. « Je ne vous veux aucun mal. Je vous ai vu atterrir. » Il avait un visage osseux et franc, plutôt agréable. Seuls ses yeux bleus, trop clairs, mettaient mal à l'aise. « Qui êtes-vous ? » lâcha Lisa sur la défensive. « Je m'appelle Gott. Je travaille avec le professeur Mikowski. Je suis ce qu'on surnomme ici un messager anatomique. » « Un quoi ? » « Un messager anatomique. J'explore les territoires les uns après les autres pour en dresser la carte hormonale. » J'ai quitté le camp de base depuis 2 mois. Mikowski disait qu'on allait finir par envoyer quelqu'un mettre de l'ordre dans tout ce foutoir. J'ai vu le parachute. Je me suis dit, tiens, le vieux avait encore raison. J'ai eu du mal à vous localiser. Vous filez comme une flèche. Comment savez-vous que je suis bien celle que vous cherchez? Le garçon éclata de rire. Sans vous vexer, il n'y a guère qu'une nouvelle venue pour s'obstiner à se promener habillée au milieu de ce cloaque. Fichez donc vos vêtements en l'air, sinon dans quelques jours ils commenceront à pourrir sur vous. Tout le monde a dû en faire autant ici. Quant aux combinaisons de nylon fournies par l'armée, personne ne peut les supporter, il fait trop chaud. C'est comme si vous viviez enveloppé dans un sac de plastique au milieu d'une étuve. » Lisa hocha la tête sans se compromettre. Elle nota que les ongles du jeune homme étaient eux aussi taillés en pointe. Elle lui en fit la remarque. « Quand on vit dans un monde de graisse où le moindre objet est huileux, il faut pouvoir agripper les choses, lâcha-t-il sans se formaliser outre mesure. Vous y viendrez, vous aussi. » Ils restèrent une minute face à face. Un silence désagréable s'installait. Gott tout sauta, gêné, et se décida à faire glisser les bretelles de son sac à dos. « Vous vous méfiez et vous avez raison, » dit-il sans regarder Lisa. « Là-haut, on doit se demander ce qui arrive ici. C'est normal. Mais vous allez vous en rendre compte par vous-même. Il se passe des trucs bizarres sur tout le territoire. Ça a commencé il y a 6 mois environ. On ne s'est pas méfié et puis... Et puis... Il est un peu tard pour parler de ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nuit qu'il faut s'abstenir de dormir. Je suis fatigué. Vous êtes fatigué. Je vous propose de camper.
D'accord.
Marcher au-delà de ses forces ne sert à rien. N'oubliez pas que la teneur en oxygène est réduite. Si vous vous épuisez, il vous faudra un temps incalculable pour récupérer.
Ok.
Elle se laissa tomber sur le sol. La couche de sébum lui poissa les cuisses. Ok. Gott s'agenouilla, ouvrit son sac. Lisa aperçut un nécessaire de prélèvement, des cartes plastifiées, un jeu de marqueurs. Le garçon se saisit d'une boîte de fer dont il tira un morceau de viande séchée. Avec stupeur, elle le vit porter la lanière fibreuse à sa bouche et l'humecter de salive pour la trancher entre ses dents. Elle bondit. « Mais vous mangez de la viande ? Ou vous êtes qu'animal, ou vous avez prélevé cette parcelle sur l'animal qui nous porte ?» « Je ne comprends pas. On m'avait dit qu'il était strictement interdit de toucher à la bête. Vous devriez normalement vous nourrir à l'aide des rations de survie réglementaires. » Gott haussa les épaules. « Normalement, normalement, » fit-il sur le ton de l'exaspération. « Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Vous ne saisissez pas que rien ne s'est passé comme prévu ? Il y a eu une première catastrophe. » Une faute initiale et tout s'est enchaîné. Très peu de temps après que nous eûmes débarqué, la totalité des réserves de tablettes nutritives a été détruite. Détruite n'est pas vraiment le mot qui convient d'ailleurs. Disons plutôt qu'elle a été digérée. Digérée ? Une masse alimentaire représentant l'équivalent de 3 années de vivres pour 300 personnes ? Il y a eu faute, je vous le répète. Nous n'étions pas encore familiarisés avec la morphologie de l'animal. Nous ne savions pas qu'il possédait plusieurs bouches réparties tout au long du corps et que, même en état d'hibernation, le diencéphale était encore capable de repérer la proximité d'une nourriture et d'ordonner son absorption. Vous voulez dire qu'il l'a avalée d'un seul coup de mâchoire, sans même ouvrir un œil ? Le garçon sourit. Oui et non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'a pas ouvert la bouche. Ses évents ont sécrété un suc digestif qui s'est répandu sur le campement durant la nuit. Puis, lorsque les aliments ont été dissociés, ce bol alimentaire liquide a été de nouveau aspiré par les muqueuses. Et nous nous sommes retrouvés démunis du jour au lendemain. Il a bien fallu faire face. Il n'y avait pas 36 solutions. C'était mourir de faim, devenir anthropophage, ou prélever notre pitance sur la bête. À certains endroits, c'est possible, car la couche de graisse est très mince. Il suffit de découper la chair de manière superficielle. Les plaies cicatrisent toujours rapidement, et l'animal ne subit pas plus de préjudice que s'il était mordu par une puce. Le pouvoir nutritif du tissu conjonctif est assez élevé et son goût acceptable. Nous avons donc fait, contre mauvaise fortune, bon cœur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que... Oui. Le jeune homme eut un geste de dénégation et s'allongea sur le dos, la nuque appuyée à la racine d'un poêle. Mikowski vous expliquera ça mieux que moi, conclut-il en mâchant consciencieusement son pemmican. Maintenant, il faut essayer de dormir. J'ai marché près de 10 heures aujourd'hui. Il faudra en faire autant demain. Si le camp de base ne s'est pas déplacé, Nous aurons rejoint le vieux d'ici 48 heures. Faites comme moi, vous êtes crevé. » Et il ferma les yeux pour bien signifier son désir de suspendre toute conversation. Lisa demeura assise, les mains sur les genoux, persuadée que le garçon feignait le sommeil. Pourquoi cherchait-il à gagner du temps? Il était de plus en plus clair que la mission zoologique avait rencontré de graves difficultés et que des conflits avaient éclaté opposant les différentes équipes préposées à l'étude du terrain. Machinalement, elle ouvrit son sac et y préleva 2 tablettes nutritives concentrées. La fatigue raidissait ses muscles, durcissait ses tendons. Elle se massa. La graisse dont elle était enduite facilitait l'opération. Lorsque ses mollets et ses cuisses retrouvaient un peu de souplesse, elle s'étendit dans la boue du sébum en maîtrisant un haut le cœur. Elle rêva un long moment à l'étrange anatomie de l'animal. L'hypothèse des multiples bouches avancée par Gott n'avait rien d'impossible. Tous les animaux gigantesques sont coutumiers de ce genre de bizarrerie. Les dinosaures ne possédaient-ils pas 2 cerveaux, dont l'un au milieu du dos? Une bête que sa masse rend peu prompte à faire volte-face doit pouvoir capturer sa nourriture d'une manière ou d'une autre sans que le procédé entraîne une dépense d'énergie annulant tout le bénéfice de l'opération. Plongée dans ses spéculations zoologiques, elle s'endormit sans même en avoir conscience. Ce fut une étrange sensation de chaleur qui la tira du néant quelques heures plus tard. Une impression de moiteur malsaine qui sourdait du sol, se communiquait à ses membres, coulait sa fièvre en elle. Sa fièvre ! Elle se redressa d'un bond, s'arrachant à la gangue gluante avec un horrible bruit de succion. Recroquevillé sur lui-même, Gott ne s'était rendu compte de rien. Et pourtant, tout autour d'eux, une abondante sudation montait des profondeurs de la bête. Des perles de sueur de la grosseur d'une citrouille s'épanouissaient dans le cratère des pores, à présent dilaté. Elle secoua le garçon avec violence. Il eut un sursaut et se leva sur un coude, l'air hagard. Les gouttes de transpiration fleurissaient à une cadence accélérée, telles des boules de cristal au vert un peu trouble. Cela faisait comme un champ irréel peuplé de fruits vitreux et tremblotants qui finissait par crever comme une bouffée d'acide urique au relent de pissotière. Lisa toussa, la gorge irritée. Sous ses pieds, la peau était devenue brûlante. Gott s'affairait à rassembler le paquetage. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla la jeune femme en bouclant son harnais. « On dirait que tout le territoire est en proie à la fièvre. » « C'est exactement ça !» haleta le garçon. « Une poussée fébrile, une inflammation due à une agression quelconque. » Une blessure légère peut être un début d'infection. À l'échelle de la bête, c'est insignifiant. Pour nous, ça prend les proportions d'une catastrophe naturelle. Venez, il ne faut pas s'attarder. Les émanations de la sueur vont s'en prendre à nos bronches comme n'importe quel gaz lacrymogène. Lisa lui emboîta le pas. L'image des plaies sépultures dansait sous ses paupières. C'était de là que provenait l'infection. Elle en aurait mis sa main au feu. L'œdème avait mis plusieurs heures pour la rattraper, mais il ravageait à présent la région tel un incendie silencieux aux flammes invisibles. Gott la saisit par le poignet. Ils se mirent à courir maladroitement, zigzaguant entre les bambous et les boules de cristal que le moindre coup de pied transformait en une gerbe d'éclaboussure. Au bout d'un quart d'heure de cette course folle, le terrain se fit moins chaud sous leurs pieds nus. Ils virent distinctement qu'ils quittaient le territoire écarlate de l'œdème pour s'engager sur un sol rose et tiède. « C'est fini, » haleta Gott. Cette fois, ce n'était pas grave. Il ne s'agissait probablement que d'une égratignure,
mais une vraie fièvre, ça c'est dangereux.
Songez que la température normale de la bête est de 45 degrés. En cas de poussée fébrile, cela peut donner des pointes de 130 à 160 Celsius. Cela équivaut pour nous à plonger la main dans une casserole d'eau bouillante. J'ai vu des types qui s'étaient laissés surprendre par un accès de fièvre. Leur peau pelait comme celle d'une pomme de terre. Atroce. Lisa acquiesça en silence. Elle se remémorait avec une amère ironie le portrait des bonheurs qu'on s'était attaché à lui tracer de la bête là-haut dans le vaisseau. Celui d'un gros jouet vivant, inoffensif et cocasse. Une sorte de monstrueuse peluche, abîmée dans un sommeil sans rides et sans sursaut. À peine débarquée, elle découvrait que ce nounours, ce teddy bear de cauchemar, était malade, que ses fièvres prenaient pour les humains qui le parcouraient l'aspect de bûcher imprévisible et mortel, que sa sueur pouvait vous ronger les voies respiratoires aussi efficacement qu'une grenade au soufre. Bref, que l'excursion au jardin zoologique qu'on lui avait tout d'abord fait miroiter se muait lentement en une descente aux enfers des plus caractéristiques. Gott marchait à présent en éclaireur. Parfois il s'agenouillait, lisant sur le sol des indications que la jeune femme ne parvenait pas à déceler. À d'autres moments, il mesurait la hauteur des poils et leur sens d'implantation. Lisa aurait voulu savoir si le garçon était effectivement et redoutablement compétent, ou s'il cherchait seulement à le paraître, dans le but d'impressionner le contrôleur dépêché par la haute autorité. Elle faillit le lui demander, puis se ravisa in extremis. Il n'était pas utile de croiser le fer aussi prématurément. Sa mauvaise humeur ne devait rien à son compagnon. Elle prenait source dans les mensonges dont l'avaient abreuvé ses supérieurs. Au bout d'une heure de marche forcée, la toison s'éclaircit de plus en plus, pour finalement prendre la forme d'un duvera rappelant l'herbe sèche. Cette toundra irritait désagréablement la plante des pieds. Elisa eut un court instant la certitude qu'elle se déplaçait sur le menton rugueux de quelque géant mal rasé. Heureusement, le terrain ne tarda pas à redevenir lisse. Une peau de bébé, aux aspects de plaine désertique, les accueillit sur son sol doux et sec. La jeune femme soupira d'aise. Elle ne put s'empêcher de fléchir les genoux pour palper la texture du sol. Ses doigts glissèrent à la surface d'un grain soyeux et délicat, élastique et frais comme l'épiderme d'un nouveau-né. À cet endroit, le tissu paraissait d'une vitalité extrême, comme si le renouvellement des cellules s'effectuait avec un zèle tout particulier. Elle en fut quelque peu surprise. Une image gênante et grotesque envahit son esprit, celle d'un homme dont le corps en pleine maturité aurait conservé çà et là des zones infantiles ayant échappé au mûrissement général. C'était idiot, et pourtant c'était exactement ce qu'elle ressentait au contact de cette chair étonnamment jeune. Trop jeune. En quelques heures, ses déambulations l'avaient fait passer d'une peau d'adulte à celle d'un enfant. Il y avait là quelque chose d'illogique et d'inquiétant. Elle se retourna, guettant le regard de Gott, mais ce dernier se contenta de hausser les épaules, comme si cette bizarrerie du paysage ne méritait pas qu'on s'y arrêtât. La jeune femme sentit son malaise s'accroître. Le problème devint encore plus crucial lorsqu'un semis de taches sombres se dessina devant eux. La jeune femme crut d'abord à une constellation de grains de beauté et n'y prêta pas garde. Ce ne fut qu'au moment où ses orteils frôlèrent le premier disque brun qu'elle prit conscience de sa méprise. Il ne s'agissait absolument pas d'une formation pigmentaire anodine, mais bel et bien de ces taches brunes, parfois noires, qu'on peut observer sur les mains des vieillards, et que la langue populaire désigne sous le nom horrible de fleurs de cimetière. Cette fois, elle eut un frisson de panique. Tout autour, la peau de l'animal était déshydratée, brillante comme le tissu cicatriciel d'un grand brûlé. Des réseaux de rides filaient vers l'horizon, creusant dans la chair grumeleuse de profondes rigoles. D'un pas titubant, elle dépassa la nébuleuse de taches et se tordit les chevilles dans les sillons mous d'un épiderme flasque, affaissé. Un épiderme d'aïeul trois fois centenaire, comme on n'en rencontre que dans les hospices. « Pouvez-vous m'expliquer la raison de ce patchwork ?» jeta-t-elle hargneusement au jeune homme. C'est une véritable histoire de fou. On croirait un damier où l'on se serait amusé à faire alterner la peau d'un nouveau-né et celle d'un septuagénaire. Cette bête est-elle jeune ou complètement sénile? On dirait que chaque partie de son corps a décidé de faire sécession et de poursuivre sa croissance dans l'anarchie la plus complète. Bon sang, vous n'allez pas me raconter qu'il s'agit d'un phénomène sans importance. On n'a jamais vu ça. Des cas de sénilité précoce, oui, ou d'immaturité prolongée, encore oui, mais jamais un tel désordre cellulaire. Gott la coupa d'un signe impatient. L'œil aux aguets lui scrutait la toison de la forêt. On vient par ici, haleta-t-il subitement, Écoutez le froissement des poils. Nous sommes complètement exposés. Vite, il nous faut trouver une cachette. Mais que craignez-vous? Théoriquement, il n'y a que les membres de l'équipe de recherche à la surface de cet animal. Qu'essayez-vous de me faire croire? Depuis que nous nous sommes rencontrés, vous ne savez qu'inventer pour éviter de répondre à mes questions. » Elle ne put poursuivre. Gott l'avait saisie par le poignet et l'a forcée à courir. Le terrain, mou, strié par les ornières des rides, était extrêmement difficile. À deux reprises, elle faillit perdre l'équilibre et s'étaler de tout son long. Le jeune homme respirait la bouche grande ouverte, les narines pincées. Une coloration bleuâtre envahissait progressivement son visage.
« Arrêtez, balbutia Lisa,
vous êtes complètement cyanosée. Vous aussi, c'est le manque d'oxygène. » Il désigna du doigt une excroissance affaissée, 200 mètres plus loin, une sorte de mamelle sèche aux allures de poire fanée. Lisa secoua négativement la tête. « C'est trop loin, lâcha-t-elle dans un souffle, je n'y arriverai jamais. » « Alors couchez-vous, vite. » Elle obéit au bord de la syncope. Son cœur frappait à coups redoublés contre ses côtes. Un voile noir lui obscurcit la vue l'espace d'une seconde. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Gott était allongé sur le sol. S'arc-boutant des pieds et des mains, il essayait d'écarter les deux lèvres d'une ride profonde comme un petit fossé. « Aidez-moi, supplia-t-il à voix basse, si on peut se glisser là-dedans. » Lisa réprima un frisson de dégoût. La peur du jeune homme devenait communicative. Elle s'écartela à son tour, pesant à droite et à gauche, pour faire s'entr'ouvrir les deux bourrelets de chair molle. La crevasse bâilla enfin, dévoilant une ravine d'où s'échappa une bouffée d'humidité rance. Sur un geste de son compagnon, elle sauta. À peine avait-elle touché le fond que les parois élastiques se rapprochèrent comme ces couloirs qui peuplent les cauchemars et ne cessent de rétrécir. Elle faillit hurler. Le mur gras et moite la plaqua contre la paroi avant qu'elle ait pu ouvrir la bouche. Elle se débattit vainement. Elle était prise en sandwich entre les deux rives de peau comme entre deux matelas vivants. Elle crut qu'elle allait étouffer. « Calmez-vous, chuinta Gott quelque part sur la gauche. Tenez votre tête levée. » Elle tourna son visage vers le ciel. Un peu de lumière filtrait à la jointure des bourrelets. Un peu d'air aussi. Elle respira à fond, cachée au creux d'une ride. Jamais elle n'aurait cru pareille situation envisageable. Des bruits de course lui parvenaient de l'extérieur, des cris de rage et de souffrance, des grognements inidentifiables. Brusquement, elle eut peur. Une vague d'hypothèses grotesques déferla sur son esprit. Des parasites. La bête avait été colonisée par toute une armée de parasites. Des poux géants, des puces, des tiques qui maintenant s'en prenaient aux hommes. Oui, ce ne pouvait être que cela. Immédiatement, elle songea aux blessures entrevues sur les cadavres lors de la cérémonie d'inhumation. Elle avait cru à des sagaies, des couteaux, alors qu'il s'agissait tout simplement de dards ou de mandibules. Elle ferma les yeux, s'abandonna à l'étreinte des parois de chair moite en se répétant qu'elle perdait la tête. Un temps inappréciable s'écoula. Gott se décida enfin à remuer. Encore une fois, il fallut lutter contre l'inertie visqueuse du repli de peau, se hisser péniblement vers la lumière en cédant des pieds, des genoux et des poings. Lorsque Lisa réussit à pousser sa tête à l'air libre, elle eut la sensation saisissante d'être en train de s'échapper de l'utérus d'une géante. La main de son compagnon se posa sur sa cheville. « Ne vous relevez pas. Si vous avez des jumelles, c'est le moment de vous en servir. » Elle roula sur le flanc, chercha l'instrument dans son sac. Les lentilles grossissantes lui apprirent immédiatement que quatre corps sans vie reposaient au centre de la plaine, à la hauteur approximative du semis dessiné par les taches de vieillesse. Un homme et trois femmes, tous nus et couverts de sang. L'homme avait le visage renversé vers le ciel, des lunettes dorées pendaient sur son nez. Lisa serra les dents, elle venait de reconnaître ses fuyards. « Gott, murmura-t-elle sans regarder par-dessus son épaule. « Qui les a tués et pourquoi ? Je commence à en avoir marre de vos cachotteries. Je veux savoir. » Le jeune homme rampa contre elle pour arriver à sa hauteur.
Il ne lui accorda pas un coup d'œil, scrutant l'étendue comme un chien à l'affût. « Qui les a tués ? » répéta-t-il d'un ton absent. « Ceux qui les guettaient, bien sûr. Une tribu de troglodytes qui, faute de caverne, vit au fond des rides. D'habitude, on les trouve beaucoup plus à l'est. Ils ont dû se déplacer. Il va falloir nous méfier. » « Des troglodytes ? Mais qu'est-ce que vous racontez ?»«
Je n'invente rien. On peut très bien aménager ces rides en cavernes habitables. Il suffit de quelques étés pour maintenir l'écartement des parois. »«
Je me fous de vos cavernes, ne jouez pas à l'idiot. Ces sauvages, qui sont-ils ? Ils étaient sur la bête lorsque vous avez débarqué avec l'équipe ?»
Gott leva subitement la main, lui intimant l'ordre de se taire.
« Tenez, souffla-t-il d'une voix à peine audible. »
Il y en a un à la lisière de la forêt. Ne l'examinez pas trop longtemps.
Méfiez-vous des reflets sur les lentilles.
Lisa riva ses yeux aux oculaires caoutchoutés. Un être étrange fourrageait dans le duvet d'un boqueteau. Son visage et son torse étaient ceux d'un enfant d'une quinzaine d'années, plein de vitalité, à la musculature avantageuse. Ses pectoraux se nouaient et se dénouaient sous sa peau huilée, comme deux bêtes cherchant à s'intimider l'une l'autre. À partir de la taille, toutefois, on notait une curieuse transformation. La chair devenait grise, plissée, les jambes fluettes et décharnées. Les poils du pubis étaient blancs et le pénis recroquevillé comme celui d'un vieillard. Lisa avala sa salive avec un pénible bruit de gorge. Elle avait dans son champ visuel un individu hybride, adolescent au-dessus du nombril, vieillard en dessous. Elle ne sut que balbutier. Mais il n'y avait pas d'enfant dans l'expédition.
Gott lui enleva les jumelles. Non, il n'y avait pas d'enfant. Vous avez raison. L'être que vous venez d'observer n'est autre que le professeur Clinton Webb, 41 ans, diplômé de l'Université de Santa Catala, spécialiste d'ontologie endocrinienne. Bientôt ce sera un nouveau-né au-dessus de la ceinture et un centenaire en dessous. Vous avez compris ? Il subit un double processus, rajeunissement et vieillissement tout à la fois, mais chacun des phénomènes a affecté une partie distincte de son corps. Les cellules constituant la partie inférieure de son individu ont cessé de se diviser. Elles ne se renouvellent plus, entraînant du même coup une sénilité accélérée. Celle de la moitié supérieure, au contraire, n'arrête plus de se reproduire, provoquant un effet de jouvence tout à fait saisissant. C'est l'effet patchwork dont vous me parliez tout à l'heure, non ? Mais quand ont-ils commencé à muter ? Comme les autres, quand ils se sont mis à manger la chair de la bête. Vous ne voyez pas qu'ils sont le reflet exact de la terre qui les porte ? Toute la tribu de Clinton Webb est bâtie sur le même modèle, avec parfois une inversion du mode de répartition.
Vieux en haut, jeune en bas.
Quelques-uns sont moins atteints. Et vous trouverez deux ou trois hommes mûrs affligés de bras de nourrissons, des femmes de 40 ans réduites à ramper parce qu'elles ne possèdent plus que des jambes d'enfants de 3 mois. C'est atroce. Selon vous, la viande de l'animal aurait une influence mutagène capable de modifier la structure d'être déjà constitué ? C'est plus qu'une hypothèse.
C'est presque un postulat.
Dévorer la terre qui vous porte vous conduit immanquablement à en épouser les caractéristiques. D'accord, ça peut se défendre, mais pourquoi cette tuerie ? Gott se passa la main sur le visage. Soudain, il avait l'air très fatigué. Parce qu'à l'heure actuelle, toute l'anatomie de la bête n'est plus qu'un vaste territoire de guerre.